Bonsoir, enfin bonjour en fait, je sais pas exactement quand est-ce que ça va être diffusé. Donc...
Bonjour, bonsoir.
Bonjour, bonsoir.
Ah, salut.
Salut, on est sur Radio Muge donc.
Bonne nuit là, je dirais même à ce soir-là. Là.
Mais comme on sait pas quand est-ce que ça va être diffusé, on...
Mais
ça,
on s'en fout. Oui, mais on peut quand même dire aux gens qu'il est 2h, 1h30 du matin.
On met les gens dans le contexte.
Voilà, exactement.
Bonne nuit.
Il est 2h du matin et nous sommes avec Laurent Garnier, donc le célébrissime DJ. Qui nous fait l'honneur de nous faire une petite interview sur Radio Muge, la radio locale sétoise.
Oui.
La première.
Oui.
Web radio.
Oui, je sais.
Et donc Laurent, évidemment, n'est pas à son coup d'essai à 7. C'est quand même. Ça fait un.
C'est pas ma première fois.
Ah, c'est pas ta première fois.
T'en fais combien d'années que tu viens, Laurent ?
Bah, j'habite dans le sud depuis 18 ans. Et je crois que la première fois que je suis venu. Ouais, c'est il y a 16 ans quoi.
Ah, quand même.
En fait, j'avais des potes. En fait, j'ai rencontré des potes à Lourmarin, là où j'habite, qui avaient une maison à Saint-Clair.
Mais oui, que je connais d'ailleurs.
Oui, oui, je connais à côté de la Croix.
Christophe et Mappy.
Christophe.
Exactement, c'est le grand.
Bah, on est très potes aussi.
Et Christophe, la maman de Christophe avait une maison à Saint-Clair et donc on venait passer des week-ends.
Maison incroyable, d'ailleurs.
Oui, c'était très sympathique. Et puis voilà, on venait manger des oursins à la plage en février. Enfin, on a fait des trucs sympas. Et puis très vite, je suis venu parce que Gilles venait avec le Worldwide et j'ai mixé Worldwide la première fois. Je crois que mon fils avait 4 ans, donc c'est il y a 14 ans, quoi.
Ouais,
c'était quasiment au début.
Au début, c'était, ouais. C'était à la CD.
Et à la base nautique aussi, avec Henrik Schwarz, je crois. Non.
Oui, alors j'ai fait le phare plusieurs fois. Enfin, j'ai fait beaucoup de trucs au Worldwide quand même.
Ouais.
On a bien rigolé.
Ouais, on a rigolé. Mais c'est vrai que la CD.
On va continuer.
Bah, en même temps, oui, tu sais que chaque année, si tu n'es pas là au Worldwide, les gens ils vont dire il est où Laurent ?
Je ne suis pas là tous les ans. Parce qu'il ne faut jamais se répéter trop. Mais je viens normalement tous les ans en tant que public, ça c'est sûr. Et puis après, je joue une fois de temps en temps. Voilà. En fait, là, cette année, cette année quand j'ai joué, je crois que j'étais pas annoncé du tout, c'était une surprise.
Oui.
Et c'est pour ça que je me suis permis de jouer des trucs brésiliens et de jouer d'autres choses.
Après, tu jouais l'après-midi aussi.
Ouais, c'était l'après-midi, donc c'était vraiment sympa. Et j'ouvrais la plage chez Claude, donc c'était vraiment cool, quoi.
Mais c'est nous qui avons joué avant toi, d'ailleurs.
Ouais, on a joué juste avant toi.
Oui, c'est vrai. Tout à fait. J'étais en train de déjeuner.
Voilà, c'est ça. À la Ola.
Chez Claude.
Oui, donc et... du coup, tu dis ça fait 14 ans la première fois.
Ouais, 14-15 ans, ouais.
Et comment t'avais connecté avec Gilles à l'époque ?
Avec Gilles ?
Ouais.
Mais je connais Gilles depuis un million d'années.
En fait,
ce qui est drôle avec Gilles, c'est qu'on a un peu le même parcours, lui en Angleterre, moi en France, avec les radios pirates, tu vois, quand on est très jeune et lui monte une radio, je crois qu'il a 16 ou 17 ans. J'ai fait mes premières émissions de radio, j'avais 14 ans parce que j'avais un pote qui était un peu intelligent et il avait fabriqué un émetteur, le mec. Tu vois, c'est au début des radios libres.
C'est quoi,
84. Je te dis une connerie. 84, c'est quand je suis parti en Angleterre. Non, pas du tout. C'est vraiment à l'explosion des radios libres.
Ah ouais,
dans les années 80. C'est peut-être 80 même.
80, c'est Mitterrand.
Oui, j'avais 14 ans, donc c'est 80, c'est bien ça. Et lui, il avait fabriqué son émetteur. Et j'allais chez lui tous les vendredis. On faisait des émissions de radio, donc sur Radio Teenager, qui était notre radio, où on jouait du funk, un peu de reggae, puis du disco. Et surtout, on jouait des disques pour brancher les copines à l'école. Et en fait, il n'y avait que les gens du bahut qui écoutaient, tu vois. Et si j'ai toujours les cassettes, hein. Et je réécoute les émissions, je suis mort de rire parce que
c'est
les 3 minutes on parle et toutes les 3 minutes on dit alors ce disque est une dédicace pour Sylvie, je t'embrasse Sylvie, je te joue Cool on the Gang, ouais trop cool.
Ouais,
et puis après 2 minutes après c'est ce disque est pour Nathalie et je t'embrasse Nathalie. Et toute l'émission c'était ça et j'ai les cassettes à la maison mais des fois je les réécoute et je suis mort de rire.
Ouais mais il y a un côté très innocent.
Mais heureusement,
et frais,
heureusement c'était super. Puis on jouait des bons disques quoi.
C'est Pump Up the Volume.
On n'avait pas la thune.
C'est Pump Up
the Volume. Et donc, j'enregistrais des émissions d'import. D'import et je jouais des cassettes. Ouais. Et des fois, j'avais pas checké le truc et je jouais une cassette et t'avais le jingle d'une autre radio. et donc, tu disais, oh, je crois qu'il y a eu interférence, c'est super bizarre. C'était tellement naïf, quoi. C'était hyper naïf, mais c'était cool.
Et du coup, moi, je me suis toujours demandé, toi, tes références musicales, ce que tu aimes, ton ADN musical, outre la techno qui arrivait après, j'imagine.
Ah bah ouais,
toi, bien, c'était bien pas après. C'était le funk surtout.
Ouais, c'est la musique noire. C'est vraiment le funk, la soul, le disco, beaucoup le disco, même la high energy en fait.
Ouais.
Parce que mon frère m'emmenait dans les boîtes gays quand j'avais 14 ans. En fait, mon frère avait un resto. Et il me faisait bosser au resto et je lui disais, moi je veux pas être payé, je veux que tu me sortes en boîte. Et donc j'allais faire la plonge, mais j'allais tout le temps. Hein. Et tous les week-ends, il me sortait dans les boîtes un peu hardcore gay, parce que bon, il a toujours vécu avec un mec.
C'était où ?
Bah, j'ai fait Haute Tension, le BH, le 18, j'ai fait plein de clubs gays à Paris.
C'est
quoi.
Pas le Palace où t'as un peu été repéré par un certain Coniveau, Fabrice.
Ouais,
Patrice Corniveau.
En fait, Coliveau, c'était.
Coliveau.
Ce qui est assez drôle, c'est qu'avant qu'il devienne un très grand pote à mon frère, je me rappelle le premier soir où mon frère m'emmène au Palace, j'étais habillé en costard, mais un truc un peu pied de poule, très grand et tout. Et mon frère, il sortait du resto, il était un peu crado. Et Coliveau faisait la porte. Et il était un peu con des fois à la porte, Coliveau, tu vois. Et il nous regarde et il dit « Ah non, non, là, qu'est-ce qu'il nous dit ? Vous êtes trop hétéroclite. » Et mon frère, il lui dit « Clite peut-être, mais hétéro sûrement pas. » Tu vois. Et en fait, mon frère connaissait le mec qui était en bas au resto, l'after, quoi. Comment ça s'appelait comment ça s'appelait le club en bas ? C'était le Kit Kat. Et en fait, on est passé par le Kit Kat et on est remonté pour aller voir Coliveau qui était à la porte. On se dit, t'as vu, on est rentré. Et en fait, Patrice est devenu un des meilleurs amis à mon frère.
T'as connu le Palace.
Un bon ami à toi.
Bien sûr.
Ouais.
Comment ?
Du coup, t'étais proche de lui, du coup, après.
J'étais quoi ?
T'étais proche de lui, du coup, après.
De Patrice ?
Ouais, oui, voilà, c'est ça.
Ah, j'étais très, très proche.
Ouais.
Oui. Et puis, mon frère et son copain l'ont accompagné jusqu'au bout.
Ouais, c'est ça, il est parti.
Ils l'ont accompagné jusqu'au bout. Ouais, on le connaissait très, très bien.
Ouais.
C'était vraiment un ami très proche de mon frère, mais après. Après qu'on l'ait vu ce soir-là où il nous connaissait pas, il nous a dit.
C'est Guy Lamour qui m'a raconté cette histoire.
C'est vrai.
Ouais, parce que lui. Il était très palace.
J'ai des très bons souvenirs de Patrice, bien sûr. Et après, moi, j'ai bossé pour lui quand il faisait les soirées loups à la loco, où il faisait un étage gay, un étage hétéro et un étage lesbienne. Et moi, je jouais. Et moi, je faisais les Getty Dance pour Patrice le dimanche après-midi. Où il y avait. Là, par contre, il y avait que des mecs. En fait, moi, j'ai rencontré ma femme dans un club gay. Mais c'est vrai, j'ai fait beaucoup de bêtises.
Cette
musique-là a commencé dans les clubs gays.
Bah, de toute façon, oui.
Ça vient de là.
En Angleterre, en France.
Aux États-Unis, c'est les clubs gays beaucoup, quand même.
Oui, aux États-Unis, oui, tout à fait. Tout à fait. Ouais. Bah, à Chicago, les premiers clubs, c'était des clubs gays black.
Ouais.
Parce qu'en plus, voilà, les clubs. Ouais, c'était ça. Vraiment, le truc où jouait Frankie Knuckles, c'était un club gay à prédominance black, clientèle black.
Il y a eu les vannes aussi, c'était l'arrivée des vannes aussi.
Les vannes aussi.
Mais
les vannes, je pense que c'était plus mélangé, la clientèle. À New York, c'était plus mélangé. Chicago, il y avait un truc plus ghetto quand même.
Ça a toujours été une ville dure, Chicago. C'est...
Voilà.
Vas-y, Paul, continue. Alors, raconte-nous-toi. Qu'est-ce que tu penses ?
Non, alors, du coup, est-ce que tu envisages donc de par exemple, je sais pas, venir t'installer à 7 ou
Qu'est-ce que j'envisage, je ?
De t'installer ici ou
de m'installer. Je n'arrête pas de dire à ma femme que j'aimerais bien, à un moment, me poser un peu ici. Ouais, j'aimerais bien. En tout cas, si je dois aller au bord de la mer. Je sais que ça sera 7 ou la Ciota, mais j'ai plus d'amour pour 7 parce que j'ai des potes à la Ciota, mais je viens beaucoup plus souvent ici. Et donc, voilà, il y a un truc cœur qui est beaucoup plus fort avec 7. Et vraiment, on vient souvent et je me sens hyper bien ici. Je trouve.
Ben, je crois que les gens ici t'aiment beaucoup.
Non, mais les.
Après, les gens, ils t'aiment partout.
Montpellier aussi, j'ai joué pas mal et donc j'ai un joli public qui me suit.
Mais réceptif ici quand même.
Mais Sète, c'est une ville très spéciale.
Ouais.
C'est très spécial. Ce que j'aime, c'est que ça a gardé son ADN. Ça s'est pas trop gentrifié, même avec les émissions, tu vois, qui peuvent attirer.
On atteint la limite, je pense bien.
Qui peuvent attirer pas mal de nouvelles personnes à Sète. Moi, ce que j'aime à Sète, c'est que t'as. Les gueulards, ceux qui font là, tu vois ce que je veux dire, ceux qui sont peut-être deux cons. Mais c'est ça que j'aime, c'est ça que j'adore.
Est-ce que t'es déjà allé chez Maryse et Lulu par exemple?
Oui, bien sûr.
Il y a
des vraies têtes ici.
Ouais. C'est mon père, il disait ça. T'as des gens qui sont forts. C'est une très belle fille vulgaire.
Mais t'as des gens très forts ici.
Ouais.
Et j'aime ça. J'aime bien ça, parce que ça reste. ça reste roots. Ouais.
Oui, oui,
et c'est ça qui est bon, c'est ça qui est bien.
Je pense que tant qu'il y aura cette base de ces toits,
mais c'est hyper important.
Mais c'est l'ADN quand même.
C'est hyper important.
Ça gardera son authenticité en tout cas.
C'est hyper important.
Même pendant, tu regarderas pendant le Covid. C'était un îlot. On s'arrangeait, tu vois ce que je veux dire. C'était.
Regarde la programmation que vous avez dans tous les festivals, que ce soit l'art, la photo, la musique, beaucoup la musique ici. Vraiment, ce que vous avez ici, c'est unique.
Ouais. Moi, je pense aussi.
Ouais. Tu sais quoi, que ça n'a pas toujours été
le
cas.
Je vois moins de concerts à Marseille que je vois des concerts à 7, et Marseille, c'est à moins d'une heure de chez moi. Je trouve qu'il y a plus de diversité ici, et tu te rends compte, vous êtes tellement plus petit que Marseille.
Ouais. Ah non, on est 50 000 habitants. Nous,
après, Montpellier, au point de vue de la prog, c'est mieux que Marseille.
Mais ça a toujours été une ville d'artistes où la culture prend beaucoup de place.
Tu sens que la culture, c'est hyper important.
Mais il faut savoir un truc, c'est que ça n'a pas toujours été le cas, quoi. C'est-à-dire que nous, quand on était ados, moi j'ai grandi ici, on se faisait un peu chier, quoi. Hein. Clairement,
il y avait pas. Montpell.
On allait à Montpellier.
Oui, bien sûr, bien sûr.
On s'est vite barré à Montpellier.
Maintenant, les Montpellierens, ils viennent là.
Au début, ils nous regardaient de haut, après, ils disaient c'est cool. Non, mais c'est vrai qu'il y a un côté très authentique à 7, où on n'aime pas se faire emmerder, tout simplement, mais il y a une. C'est des gens vrais.
Ça, c'est moins qu'on puisse dire.
C'est pas excessif.
C'est ça que j'aime. Ils sont vrais, mais il n'y a pas ce côté dur. Comme ça peut être, peut-être, si tu vas au Pays Basque, c'est plus difficile.
Oui, oui.
C'est plus difficile. Les Basques sont rudes, mais ils sont aussi un peu durs avec les gens. Qu'ici, ils ont l'habitude d'avoir des gens qui viennent, ça brasse
c'est
beaucoup.
C'est le passage, bien sûr.
Ils restent eux-mêmes, mais il y a une vraie ouverture. Et c'est ça que j'aime ici.
Bon, après, il ne faut pas oublier que c'est quand même la ville de Paul Valéry, qui est peut-être un des plus grands écrivains français.
Et de Georges Brassens, merci. Merci pour ce dernier clin d'œil.
Quoi ? On ne t'attend pas, Paul.
Non, le dernier clin d'œil de Georges Brassens, voilà, bon, ouais. Je pense que ça a touché les gens qui étaient là, c'est sûr.
J'entends rien.
Ah oui, mais parce que moi, j'entends super fort,
oui,
en fait.
Ah d'accord, ok.
Ah oui, parce que toi, t'es très fort dans ton casque.
Je suis obligé de mettre le cas, sinon après je peux pas gérer les volumes.
Et du coup là, tes projets là, dans les médias là, tu...
Là j'ai un album qui va sortir au mois de mai.
Donc ça c'est l'album Covid.
C'est
l'album Covid.
L'album Covid et puis post aussi Covid.
Ouais.
Mais oui l'album qui a commencé pendant le Covid, ouais, ça c'est sûr. Donc ça sort au mois de mai. Là déjà j'ai un nouvel EP là qui sort dans une semaine, qui est la cinquième partie avant l'album. Et après, l'album va regrouper tout ce que j'ai déjà sorti et puis d'autres choses. Mais comme on a sorti que en digital et sur des toutes petites plateformes...
C'est compliqué maintenant de sortir des vinyles.
Oui, c'est compliqué. Mais là, on a fait vraiment des tout petits trucs. Donc je sais, quand on va sortir l'album, on va le distribuer chez plus de gens. Mais on sort d'abord un vinyle collector chez Yoyaku à Paris, qui est une boutique parisienne qui est vachement bien. Et ils ont distribué un de mes 5 EP, parce qu'en fait là l'idée des EP c'était d'en sortir un tous les 2-3 mois et de le faire distribuer par un seul distributeur, pas aller chez tout le monde. Et en fait chaque EP allait chez un distributeur différent. Comme ça on a vu qui travaillait bien et qui travaillait
c'est
moins bien.
Joué, ça.
Tu vois ? Et ce, pour nous là jusqu'à maintenant, ceux qui ont travaillé le mieux c'est les gens de Yoyaku à Paris. Et donc on leur a dit vraiment qu'est-ce qu'on peut faire d'autre avec vous, parce que c'est un plaisir de bosser avec vous. Et ils nous ont dit, nous, on a ce truc-là où on fait des vinyles vraiment limités, hyper collector, qui sont hyper beaux, ils travaillent beaucoup le visuel.
L'objet.
Ouais, vraiment. Et l'objet est magnifique. Donc, on en fait un, là, en février avec eux, fin février. Et après, on sort l'album au mois de mai. Et puis après, je vais tourner en DJ encore pendant un an et demi.
Comment t'as vécu, toi, le passage à la numérisation de la musique ?
Ah, moi, j'ai pas eu de problème. Tu sais, moi,
l'objet
pour moi,
est sacré, tu vois, le
vinyle. Ouais, l'objet est sacré, mais il y a un moment, je me suis flingué le dos pendant 25 ans.
Je savais que t'allais dire ça.
Et puis maintenant, il y a beaucoup de trucs qui ne sortent qu'en digital. Donc, c'est vrai que les clés USB, moi, j'aime vraiment jouer avec les clés parce que ça me... Par rapport à ma façon de jouer... J'aime faire des mix hyper longs et par rapport à ma façon de jouer, c'est le format qui marche le mieux avec ma façon de jouer. J'achète toujours du vinyle.
Oui, bien sûr.
Mais c'est même, ça m'arrive d'acheter du CD. Je sais que c'est désuet, mais ça m'arrive d'acheter des CD. Mais j'achète aussi beaucoup de digital, puis j'en reçois beaucoup. Et en fait, même si j'achète des trucs en vinyle qui sortent qu'en vinyle, je vais me les mettre en digital parce que je préfère jouer en digital. Moi, pour moi, l'objet, oui, c'est important chez moi. Et
mais ce qui est malheureux, c'est qu'il y a moins de cassettes d'albums. Tu vois, comment du coup, le fait que ça soit digitalisé, numérisé, tu as le concept d'album.
C'est aux artistes de faire ce qu'ils veulent faire. Moi, tu vois, mon album, il va sortir. On va faire plusieurs formats différents, mais on va faire un triple vinyle. On va faire un CD qui va avoir un track listing un peu différent. Il y a un petit 45 tours avec un ou deux remix. Va y avoir une cassette, mais ça, elle sera dans un coffret. Et ça, en fait, je vais mixer les tracks comme un set
DJ.
Les
cassettes reviennent aussi, les
cassettes.
On a vu que les cassettes revenaient.
Et après ça, on va faire bien sûr un bundle digital, tu vois. Voilà.
Et FCOM
Non, ça sera pas sur FCOM.
Ouais. Mais ça existe toujours.
Non, FCOM, ça s'est arrêté il y a longtemps. Ouais. Le dernier disque sur FCOM, c'était mon dernier album. Donc c'était le Homebox il y a 4 ans.
Ouais.
Mais déjà, on avait déjà arrêté le label, tu vois. Là, c'est vraiment. FCOM,
si c'est
fini. Eric, il a changé de métier. On bosse toujours ensemble.
Il a changé de métier.
Ouais, complètement. Ouais, il est massothérapeute maintenant.
Ah ouais, putain.
Il fait des massages.
Dingue. Tu vois, je pensais à. Il y a plein d'artistes comme ça.
Ben oui.
À l'époque, nous, on était fans de Ninja Tune. Tu vois, toute la. Des mecs qui ont un talent fou et qui ont fait un disque ou deux disques et tu les retrouves, tu vois, dans des métiers complètement. Ben et tu te dis comment ces mecs n'ont pas percé.
Ça, c'est pas que dans cette musique-là. Hein. Billy Ocean qui faisait du funk, il est chauffeur de taxi à Londres. Hein, donc, voilà.
Et les
c'est un scoop. Ouais. C'est un scoop.
C'est pas mal, ça, comme scoop.
C'est vrai. Hein. Ouais.
C'est
vrai,
dommage que tu. Oui, voilà. Ouais. Mais
voilà, donc j'ai l'album, ouais. Ça c'est le truc important. Et puis après, je vais tourner encore un peu, et puis, mais tranquille, pas trop.
T'es toujours pas fatigué de tourner ?
Non, je suis fatigué des aéroports, j'en ai plein le cul. Vraiment, ça me gonfle.
Ouais.
Mais quand je joue, la fatigue, tu l'oublies. En fait, tu vois, j'ai encore la chance que toutes les fois où je joue, ça enlève tout ce qui est.
Bah,
tout ce qui me fatigue en fait. Donc je me plains pas. Hein.
Un souvenir de Garfield, Didi Garfield. Car à l'époque, quand vous êtes allé à Shanghai, tu sais, mixer pour le Worldwide, il m'a dit. Ils ont coupé l'électricité.
Ah non, mais j'étais tellement sous à la fin. J'étais sous comme un Cosaque. Mais vraiment, hein, là, c'était une soirée. Je m'en rappelle bien. J'étais fatigué à Shanghai. Je suis très fatigué.
Et bon, oui, du coup, quand t'es père de famille, au bout d'un moment.
Non mais là je fais attention, je finis plus comme ça. Ça c'est fini ça. C'est fini.
C'est là, ça c'est la force de l'âge.
Ouais mais c'est normal. Je mixe depuis 35 ans donc oui j'ai fait des conneries il y a longtemps où je finissais sous comme un cosaque mais maintenant non ça, je suis un peu plus sage quand même. Puis maintenant je vais dormir avant de jouer. C'est pour ça que je garde l'énergie quand je joue. Je dors. Ce soir parce que j'ai joué tôt. Mais si je commence à 1h du matin, maintenant.
Ah ouais.
Toujours.
Et tu arrives à dormir.
Mais mec, j'ai 56 ans, donc il y a un moment où le corps il est fatigué, tu vois. Je peux pas, faut pas que je me tue, quoi. Faut pas que je me flingue. Ouais. Et ce qui est pas mal de dormir, en fait, j'arrive, j'ai la tête qui marche et surtout, je picole pas.
Du tout.
Bah non, je suis au petit-déj, donc à part boire un thé quand j'arrive, je bois une bière 2 heures après, mais c'est tout, tu vois. Je picole rien, quoi.
Tu mixes ça, jamais tu picoles plus du tout quand tu mixes.
Je picole plus, je vais boire 2-3 verres, mais sinon, de toute façon, j'ai jamais, à part certains trucs à Shanghai, j'ai jamais bu beaucoup, moi. Je suis pas un gros buveur. J'aime bien boire du vin, et comme le vin, ça marche pas quand je joue, je bois une ou deux bières et c'est tout. Parce que j'aime pas l'alcool fort, jamais. Donc j'en bois pas.
Ni de drogue.
Tu es en contrôle.
Bon, je sais pas si je suis en contrôle. Non, il y a des fois je suis pas en contrôle. Mais oui, un peu quand même. Ouais, je suis obligé de contrôler. À mon âge, tu es obligé de contrôler. Il y a un moment, tu es obligé de contrôler.
Ouais, forcément.
Sinon, après, tu fais porte nawak et tu.
Tu perds le sens de
tu perds les trucs. Ouais. Voilà. Moi, mon boulot, c'est très important. Très, très important. Donc, je le prends très sérieusement. Tu vois, là, toute la journée, j'ai été à l'hôtel et j'ai été écouter mes disques. J'ai pas joué un dixième de ce que je voulais jouer.
Non, mais moi, je m'attendais à ce que tu fasses un truc justement un peu broken beat, un peu machin.
Je voulais le faire et en fait, le son, je l'aurais fait si j'avais joué là-bas.
Dans le dancing ?
Ouais, là-bas, je l'aurais fait, vraiment. Et là, je pense que c'était pas l'endroit.
Ouais.
Non, les gens étaient pas venus pour ça.
Pourtant, je suis resté house, j'ai fait très différent le soir.
Oui.
Et j'ai fait exprès. Et tu vois, même quand j'ai joué le Mulatu à Staké,
j'ai adoré.
Mais... Le son, il était hyper dur. Et je me suis dit, non, ça va pas le faire du tout.
J'ai vu la tentative.
Ouais, voilà. J'ai essayé, je l'ai mis. Et je me suis dit, c'est une erreur. Par rapport au son et par rapport à l'endroit, c'est une erreur. Donc voilà,
c'est vrai que d'ailleurs, le dance floor, c'est un peu ramolli.
Exactement. Donc, je suis revenu sur. Ah ouais, moi, j'ai une question.
Mais pourtant, comment moi, c'est le moment où je me suis dit, tiens, ça y est, il bascule.
Comment tu décèles le. Comment tu décèles les signes d'un moment où il faut changer.
Tu regardes les gens.
Tu vois, ouais.
Tu le vois direct, instantanément.
C'est notre boulot, tu regardes les gens.
Ouais. Bah, moi, je fais pareil.
Tu regardes les gens.
Et Laurent, on va peut-être te laisser parce que je crois que tu as attendu.
Oui,
c'est merci beaucoup
d'être là. Merci, on a une jolie interview de 20 minutes.
À bientôt alors.
Tu reviens souvent, non?
Oui. Je reviens demain.
Tu vas finir par habiter à côté de chez nous, peut-être, voire même.
On t'attend pas pour connaître des plans pour acheter des maisons.
J'ai plein de plans.
Merci.
Merci beaucoup, Laurent. Au revoir.